tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+, il est 18h, vous êtes en notre compagnie pour une heure d'actualité geek et ludique en compagnie de moi-même François, de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut tout le monde.
Alors, pas d'invité aujourd'hui, mais peut-être un petit flashback sur l'émission précédente, puisque nous avons parlé longuement d'une activité qui se joue avec des briques. Et je sais que l'événement est en train de se terminer. L'événement est en train de se terminer. C'est une exposition. Et d'ailleurs, Dominique, tu as été faire un petit tour ce week-end, hier notamment.
Hier après-midi, exactement, à Écodœuvre, juste à côté de Cambrai, puisqu'on avait reçu la semaine dernière Geoffrey Rian, le président de l'association Ch'tilug, qui a organisé cette exposition. Et alors, attendez, plus de 800 mètres carrés, largement. La salle était remplie. C'était. Il y avait encore plus de choses à voir que la dernière expo où j'étais allé. Et il y en aura encore plus le mois prochain. On va tout de suite donner les informations. À Divion, ouais. La première ch'tibrique de Divion. Donc c'est les 26 et 27 février 2022. C'est dans le Pas-de-Calais. C'est juste à côté de Bruay-la-Bissière, j'ai pas de bêtises. Alors là, il m'a promis plus de 2400 m². Encore plus de choses que j'ai pu en voir hier. Et croyez-moi, si vous n'étiez pas, il y avait des trucs à voir. Il y avait de tout. Tous les univers de cinéma, de geek, tout était là.
Alors, d'ailleurs, en allant sur le Facebook de l'émission Heureusement en France, il y a des belles photos, il y a des belles vidéos également.
Je me suis retenu, hein, de tout. J'ai pris des dizaines de photos, j'ai pas tout mis, c'est impossible. Et sur l'Instagram et le Facebook de Ch'tilug aussi, vous en trouvez. Il y avait des invités prestigieux, il y avait notamment le gagnant de la première saison de Lego Masters, qui était sur le stand du magazine Brick Mag, dont on a parlé aussi, et qui dédicaçait. Il avait ramené sa coupe, une énorme coupe en Lego. Bien sûr, forcément. En brique. Ah, j'ai dit Lego. En brique. Et on pouvait se prendre en photo avec lui, dédicacer. Enfin, c'était bien rempli. Même pour vous dire un exemple, je l'ai posté sur Instagram. Il y avait une buvette qui était organisée par l'association des parents d'élèves du coin. Et ils avaient empilé les verres, enfin, les gobelets plastiques au nom de Ch'tibrique. Ch'tilug, les classiques comme dans toutes les manifestations. Et ils avaient fait des piles en hommage à la brique. Donc c'est pour te dire, ça pousse très loin le délire. Hein. Mais c'était fou, quoi. Il y avait une table d'hommage à Tintin. J'en avais vu une fois avant, mais c'était déjà impressionnant. Mais là, c'était impressionnant. Il y a quelqu'un qui avait reconstitué le château de Moulinsart avec les personnages, les petits. Donc il y avait le château, la grande cour du jardin du château. Et devant la grille, tu avais des journalistes avec les voitures comme dans une scène de Tintin. Enfin, c'est fou, quoi. Tu as plein de véhicules de petites scènes, enfin, c'est fou de toute façon. Il faut être sur place. Hein. Si vous avez raté ce week-end, allez à, je me trompe toujours dans le nom de la ville, à Divion le mois prochain, ou allez voir les photos, c'est impressionnant parce qu'il y aura encore plus de choses. Il y avait du Stargate, François.
Du Stargate.
Stargate, oui, exactement.
Alors j'ai vu des belles tables et également des personnes qui animaient l'événement, exactement. Et qui étaient en costume. Un peu de l'armée qui protège la base.
Exactement. Il y avait du Star Wars. Ah non, ceux qui présentaient les tables Star Wars n'étaient pas en Star Wars cette fois-ci, mais j'en avais vu à d'autres expos, donc c'est sympa. Il y avait une double. Enfin, de toute façon, c'est pareil. Même, j'ai un bon appareil qui prend des photos grand angle. Même avec ça, j'arrive pas à prendre les tables en entier. Donc voilà, c'est tout. Il y avait quoi ? Il y avait quelqu'un qui avait reconstitué tous les derniers films de Marvel. Enfin, la série des X-Men.
Tous les types de héros, peut-être.
Voilà, ouais. Hulk. Enfin, ouais. Tous les. Chaque film avait sa propre scène reconstituée avec des personnages, etc. Enfin, c'est fou, quoi. Et à chaque fois, je demande, vous avez utilisé que des briques de la marque danoise pour faire ça ? Oui, oui. Et ils s'interdisent absolument de prendre ou de faire le propre modèle, etc. Ou d'aller chercher des choses ailleurs. C'est très impressionnant. Enfin, je vais me répéter, mais c'est fou. Et bien sûr, il y avait des gens qui vendaient des Legos. Bien sûr, j'en ai acheté, histoire d'eux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait tout l'univers Harry Potter. Enfin, je sais plus, j'ai noté, mais il y a tellement de trucs, c'est impressionnant. Star Wars, Batman, les véhicules Batman reconstitués. Il y avait, et bien sûr, le traditionnel petit parcours de billes.
Alors, tu as suivi un peu comme un enfant passionné, une
cette
bille.
Non, fois, j'ai la technique. Je me mets plus en hauteur et j'arrive à tout filmer sans bouger, parce que sinon, il y a plein d'enfants qui gênent et tout.
Mais bon, on est d'accord, tu suivais une bille que tu as...
J'essaye. Mais c'est pas facile. Mais et à chaque fois que tu voyais Bill coincé, ah non, j'ai envie de demander au monsieur si je peux la décoincer. Non, elle finit par la décoincer. Ils arrivent à calculer même ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les billes viennent se coincer, mais ils savent qu'il y a d'autres billes qui vont arriver derrière, qui vont les bousculer. Moi, j'avoue, ça va très très loin. Quelqu'un qui avait reconstitué une immense table qui représentait une ville, avec un, qui était en deux parties, avec un train qui bougeait, bien sûr, qui allait d'une ville à l'autre. Enfin, c'est, enfin, y a des trucs de fou, quoi. Et j'ai vu aussi des, alors parmi les gens qui venaient présenter, alors faut que je retrouve les informations. Des gens qui présentent des projets qu'ils essaient, qu'ils ont montés d'eux-mêmes. Donc, ils inventent des créations. Et des gens qui font des créations telles qu'on les achète dans les boîtes, ce qu'on appelle les sets. Il y a des gens qui font des décors, qui s'amusent dans certains univers. Et il y a des gens qui essayent d'inventer des objets, comment dire, des scènes ou des objets, ou, de faire leur propre création en briques et de les présenter à Lego, je veux dire à la marque, pour que, s'il vous plaît, monsieur qui est au Danemark, s'il vous plaît, j'aimerais bien que ça devienne
une boîte officielle.
Une boîte officielle, un objet qui soit vendu dans le monde entier, etc., s'il vous plaît. Et donc, il y a des sites pour ça où tu peux aller supporter un petit peu à la façon Kickstarter. Tu peux voter pour ces projets. J'ai vu quelqu'un notamment qui s'appelle Lee Wan, si je n'ai pas de bêtises, qui a inventé un télescope qui marche. Il marche, il triche un peu. Un télescope, donc tu montes ton télescope qui n'est fait qu'avec des pièces officielles Lego et qui a un petit mécanisme à l'intérieur où tu peux agrandir, il y a de la lumière et tu glisses une espèce de petit diapositive qui est aussi en Lego, à part le film bien sûr, et tu peux voir le ciel à travers. Donc, et son télescope marche en fait et il aimerait bien que les gens aillent voter pour lui. Alors je vais donner l'adresse, c'est si je la retrouve. On peut voir ses infos. Alors j'en ai profité pour récupérer plein de sites. Donc par exemple sur le site ideas.lego.com, donc ideas.lego.com, vous cherchez Lee Wan, LEEWAN, ou simplement télescope, et on voit la page où il y a son télescope qui marche. The Working Telescope, bien sûr, c'est une page, celle-là, c'est une page en anglais. Et si vous créez un compte, vous pouvez voter pour lui, le supporter. Et s'il a 10 000 supporters, en gros, eh ben, Lego daignera examiner son projet et peut-être le juger digne d'être présenté. Et effectivement, j'ai discuté un peu avec lui. Et l'argument, c'est effectivement, c'est pas juste une nouvelle figurine ou quelqu'un qui est représenté, je sais pas, un monstre d'un film ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est un objet où, si tu fais ça avec des enfants, l'enfant va monter le télescope, donc il va comprendre comment ça marche. Et voilà, il y a un petit côté, il y a un petit plus pédagogique pour ce genre de projet. Donc, ça, pourquoi pas, ça peut marcher. Son télescope est toujours en évolution, quoi. Ça fait, je ne sais plus combien de temps qu'il travaille dessus. Et c'est le principe aussi. C'est que quand tu as fini un truc, bah, tu le démontes, tu le recommences, tu essayes de le faire mieux, quoi.
Surtout que pour une grande boîte, il faut au moins que l'idée proposée puisse rentrer dans une de leurs gammes. Et que surtout, pour les marques dont on parle, dont Lego, ils font aussi des boîtes pour apprendre. Mais des grandes boîtes où tu as des 500, 600 pièces, où tu peux apprendre aux enfants ou à d'autres personnes par apprentissage de la logique, l'informatique et tout ça. Ce sont des boîtes que tu peux acheter. Donc, est-ce que ça pourrait rentrer dans ce type de boîte, vu son nombre de pièces, pourquoi pas?
Et peut-être qu'il aura autant de chance que Guillaume Roussel, qui lui aussi est un créateur, un fan, un affole, hein, les adultes fan of Lego, un affole lui aussi, qui a créé, avec des pièces Lego, une map monde, qu'on a pu voir sur le Facebook de chez lui, parce qu'il était là, et la map monde était là, elle est assez énorme, faite toute exactement avec des briques de la marque que j'ai encore cité, mais c'est pas grave. Et cette fois-ci, la marque a dit « Ok, pas de problème, ça marche pour toi. » Et puis donc ça a été présenté officiellement par Lego France, etc. Et donc il était là, on pouvait voir son travail et plein d'autres créations. Enfin,
c'est ça, donc c'est le globe terrestre qui sera disponible, qui contient 2585 pièces.
Donc j'aime autant dire que si tu montes, tu vas connaître par cœur, une fois que tu connais par cœur la planète. Non.
Enfin, bon. Donc, il contient aussi ce qu'ils appellent les Lego techniques, qui lui permettra donc de tourner sur son axe. Ça va quand même coûter 200 €, hein. Mais bon, c'est comme l'avait spécifié, hein, le président de Stilug. C'est vrai que quand on voit le prix de certaines pièces comme ça, on voit que c'est destiné souvent à des adultes.
Ouais, et puis c'est des pièces aussi que tu mets bien en avant sur le montant de ta cheminée pour le montrer en disant « je l'ai construit et je suis fier de vous le montrer ».
Je vais citer deux autres sites, par exemple, où on peut... Enfin, ceux qui font leur propre création, qui s'amusent à prendre ça, et qui sont fiers et puis qui veulent les partager. Il y a deux sites, par exemple, sur lesquels on peut retrouver des créations. Il y en a qui s'appelle rebrickable.com. Alors, il est en anglais, oui, c'est ça. Donc, rebrick, B-R-I... Alors, c'est R-E-B-R-I-C-K Able, donc rubricable, et on peut voir toutes les créations des gens, si vous êtes fan. Si vous pensez avoir fait l'objet le plus extraordinaire avec vos briques, vous pouvez le présenter, puis les gens mettent des commentaires, enfin, c'est assez sympa. Et il y a un autre site qui est en français, si je ne dis pas de bêtises, c'est Mecabricks, M-E-C-A-B-R-I-C-K-S, .com. Il y a une partie française en tout cas, et c'est pareil, on peut voir les créations des auteurs, et ça permet aussi aux gens qui viennent sur l'exhibition de partager. Là, par exemple, il y a typiquement sur certains stands, tu avais un QR code, tu pouvais scanner, tu voyais les créations sur la table de la personne, mais tu pouvais aller voir toutes ces autres créations parce que c'est pas possible de les amener. Et tu peux même télécharger des fois les fichiers dans certains logiciels pour les faire toi-même, enfin les tester, les modifier, voir comment ça marche, les voir sous toutes les coutures si tu peux pas aller sur les salons.
Et on peut rappeler le magazine également. Que tu avais as ramené.
Brick Mag, donc Bricks au pluriel, Mag tout simplement. On peut commander les anciens numéros, donc c'est brickmag.fr. On peut commander les anciens numéros puisqu'on peut plus, à part, on peut plus le trouver en kiosque uniquement sur le site, mais c'est sympa. Hein, t'as feuilleté, j'en ai apporté un hors-série spécial espace, comme je sais que t'aimes bien ça, et on peut voir des créations d'auteurs du monde entier, et il y a des trucs de fou, quoi. Et ça donne envie d'acheter, de commander et de tester soi-même.
Alors, vu qu'on parle d'un magazine ici, c'est avec une petite tristesse qu'on apprend donc, que le virus info, c'est fini. Alors, c'est encore fini.
C'est pas la première fois que le virus informatique tombe dans les... Enfin, dans les...
Après oui, 25 ans déjà.
Oui, c'est ça. Et quelques rebonds. Parce que c'est vrai que maintenir un magazine qui coûte 2 euros, enfin, puis il est passé à 3 euros, sans publicité, complètement libre, même s'ils ils ont déménagé en Estonie, c'est ça, en Estonie pour réduire les coûts, etc.
Mais même alors, en Estonie. Non pas pour la fraude fiscale, puisqu'il le détaille dans les
détails. Mais ça leur permettait, depuis l'Estonie, c'est du télétravail, de produire le magazine grâce à l'aide de ses fans. Hein. Malgré les. Justement, alors ce qui s'est passé, c'est que même en Estonie, le coût de la vie commence à augmenter. Hein, ça a gagné plus de 16%, si je ne dis pas de bêtises, en un an. Et puis il y a aussi eu la faillite du distributeur presse, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave, de toute façon, qui a rendu compliqué, mais pas que pour eux, mais pour des tas de magazines, surtout en période de Covid, la distribution, et puis le distributeur a fait faillite, et puis il y a énormément de magazines qui n'ont pas eu ils n'ont pas été remboursés, puis ils avaient fait des avances, ils n'ont pas eu de l'argent, donc on a réussi parce que j'ai participé aussi, à continuer à faire perdurer un peu le virus mag, mais ça ne suffit pas, donc jusqu'à la prochaine fois. Donc le numéro 49 est toujours en kiosque. Si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez toujours le trouver.
Ouais, je le vois encore, avec de très bons articles. Et voilà, un magazine qu'on espère va revenir à un de ces quatre. Alors...
Mais c'est pas tout. J'étais à Cambrai.
Ah, mais attends, mais j'allais passer un peu de musique. Mais oui, mais puisque là, on parle d'un magazine qui nous a quittés, il y a également des artistes qui sont partis.
Oui, oui, la moisson quotidienne. On n'en a pas fait la semaine dernière, je crois.
Alors ici, il y a plusieurs artistes. On va commencer par un qui a un nom de recette, enfin, qui a même le...
Il n'y a pas que le nom, il y a le look.
Voilà, c'est pain à la viande qui est parti.
Pain à la viande, Meat Loaf, c'est typiquement ça, quoi. Et effectivement, quand tu le voyais sur scène, c'était une espèce de colosse, quoi. Alors, si vous ne l'avez pas vu sur scène, vous l'avez peut-être vu dans, comment s'appelle ce film, de David Fincher, où il se tape dessus, Fight Club. Fight Club, c'est lui qui joue le rôle de... Comment il s'appelle, Robert, je crois, une espèce de type imposant qui aime bien prendre les héros dans leurs bras. Voilà, si vous l'avez l'image.
C'est un catcheur bisounours, c'est ça ?
Une espèce de catcheur bisounours, quoi. C'est un personnage assez imposant et d'où son surnom. Je pense que c'est son surnom, Meat Loaf. Il n'est pas que chanteur. Effectivement, il a joué dans des séries et il avait un style. Sur scène, c'était. T'imagines un chanteur d'opéra qui fait du rock. Enfin, c'était impressionnant à voir et entendre. Surtout que là, j'ai réussi à trouver un morceau qui ne fait que 4-5 minutes, c'est ça ?
C'est ça.
Je crois que j'avais une cassette. Je ne l'ai pas recherché pour venir à l'émission, j'avais une cassette, mais genre, les morceaux font minimum 8 minutes, quoi. Et c'est du. Ça part. Le morceau que j'ai trouvé en plus, je crois que c'est en duo avec Cher.
Mais c'est un feat.
Un featuring avec Cher.
Oh ouais.
On a viande avec Cher, c'est original. Hein, un morceau de viande avec Cher. Sauf que la pauvre, elle fait un peu pâle figure, malgré ça. Elle a du poumon, mais elle fait un peu pâle figure.
Et puis maintenant, elle a 95% de plastique, hein, elle a plus de viande.
Oui, mais même à l'époque, elle faisait pas les bois.
Oh,
c'est garçon.
Dead Ringer for Love. Meatloaf avec un feat de Cher. Eh oui, de la belle musique, Dominique, très bon choix.
Qui met la pêche.
On enchaîne dans cette émission, heureusement, en France, avec un autre petit événement qui s'est passé ce week-end.
Attends, j'ai pas fini mon week-end à Cambrai.
Justement, c'est pour ça que je te laisse enchaîner.
Du coup, j'étais à Cambrai, j'en ai profité pour aller faire des bêtises. Bon, ça c'est facile, c'est nul. Non, du coup, j'en ai profité pour faire une visite que j'avais repérée la dernière fois que j'étais allé, mais j'avais eu le temps. La citadelle de Cambrai. On connaît ici la citadelle de Lille, Arras, enfin, les fameuses citadelles de Vauban, entre guillemets. Et justement, à Cambrai, il y a une citadelle qui fait tout le tour de la ville, enfin. Il ne reste plus grand-chose de citadelle, mais on peut la visiter. Les inscriptions, c'est facile, c'est sur l'office de tourisme de Cambrai. Et tous les samedis à 16h30, on peut visiter les souterrains de la citadelle, parce que la plupart, maintenant, la citadelle, tous les contours ont été comblés. Et on peut visiter, alors le total, on fait pas le total de la visite de la citadelle, qui a été construite au XVIIe siècle, parce que ça fait pratiquement 8 km, mais pendant une heure et demie, avec une guide, on apprend comment vivaient les soldats à l'époque. Et comment Vauban est arrivé un siècle après, puis un petit peu amélioré la citadelle, sûrement piqué quelques idées au passage. C'est très sympa à faire. Et on vous donne un casque à l'entrée. Parce que, non pas, il n'y a pas des morceaux qui tombent, mais c'est juste que par moment, les couloirs deviennent un petit peu plus bas. C'est vraiment une visite à faire. Ça coûte 7 euros, si je ne dis pas de bêtises. Ça vaut le coup si vous habitez Cambrai ou si vous passez, parce qu'on se rend compte de. La façon dont on pensait la défense à l'époque. Et en fait, la forme des citadelles, ça a été inventé par les Italiens. J'ai pris ça. Moi, je crois que c'était Vauban qui, dans son génie, avait tout inventé. Non, le gars, il est arrivé après. Il a sans doute piqué un peu quelques idées. Et on n'a pas fait mieux au niveau défense depuis cette époque. Et on comprend qu'on est dedans. Comment ça marche, comment on peut tenir un siège contre même une armée en surnombre. Et j'ai même enregistré un son à un moment. Voilà. Il y a la guide qui nous fait le coup. Elle demande à tout le monde d'éteindre ses torches et de rien dire. Et en fait, on se retrouve dans un silence, mais absolu, presque comme dans l'espace. C'est, rien que pour ça, c'est très impressionnant. On n'a vraiment plus l'habitude, quoi.
Du coup, t'as l'oreille qui siffle.
Alors qu'on est sous la ville, quoi. On est quelques mètres sous la ville. Les murs font 3-4 mètres d'épaisseur. Mais c'est très impressionnant. En plus, il y a une température. Genre, il fait entre 15 et 20 degrés, mais c'est constant. Alors qu'à l'extérieur, il faisait peut-être 5 degrés. Et quelle que soit la saison, la température est pratiquement constante. Donc, c'est le genre de visite très, très sympa à faire.
Très bien, merci Dominique. Ouf. Alors, un événement qui devait se passer en Belgique du 5 au 6 février, c'est les portails de l'imaginaire, version qui était annulée.
Non.
Et si, puisque je vois
que... On se demande pourquoi.
Eh oui, pour des raisons mystérieuses, hein, vous le savez bien. Édition qui sera reportée en 2024.
Ah oui, donc, carrément.
Voilà, pour les fans de littérature, jeux de figurines, jeux de rôle et art.
Ah, c'est dommage, j'avais hâte de découvrir ce nouveau... Enfin, ce salon qu'on ne connaissait pas, qui était vraiment pas loin à Moucron, c'est juste à côté d'ici. Bon, désolé pour eux.
Voilà, on peut faire un clin d'œil à Viking qui, ce matin, avait fait une petite émission, si vous êtes passionné de jeux vidéo.
Dans Twitch Café, ouais. J'ai vu, hop, je suis arrivé, j'ai raté le début de l'émission, mais c'était les jeux de notre enfance. Les jeux vidéo de notre enfance, un sujet qu'on aborde de temps en temps, hein, qu'on raconte nos souvenirs de guerre. Et donc, toute l'équipe de Viking et ses chroniqueurs s'amusaient à repasser des sons, à faire des quiz autour des jeux vidéo qu'ils ont connus, conceptés. Alors, selon les. Je demandais s'ils avaient parlé de Nord et Sud, mais non. C'est encore trop ancien, sans doute.
Je pense que si on faisait une émission, les jeux de notre enfance, il faudrait faire plusieurs rubriques, parce qu'on a une sacrée liste.
Mais on avait quelques références, puisque à la fin de l'émission, ils ont passé une musique de Diablo, la fameuse musique de Tristram qu'on a déjà passée nous aussi ici. Donc pour écouter l'émission de Viking, c'est simple, sur Radio Campus Lille, dimanche 10h, vous allez voir. Et vous avez le podcast des émissions.
Alors, petit agenda, on revient au grand plaisir d'Orénald sur la brique. C'est une exposition qui aura lieu prochainement à La Fileuse.
La Fileuse
à partir du 5 février.
Donc La Fileuse à Los, c'est dans la rue principale, c'est un petit peu à côté de la mairie. Donc sur toutes les informations sur lafileuse.org.
Et donc
oui, c'est ça.
Ici on aura un peu comme dans le salon, dans les salons de.
Exactement. C'est une exposition un petit peu statique qui est dans les locaux de La Fileuse, et ça c'est présenté pas par Ch'tilug, mais par une autre association qui s'appelle ACT Team. Voilà. Une organisation aussi de Dafol.
Y a-t-il d'autres petits événements que vous souhaitiez annoncer avant que j'enchaîne avec une autre artiste qui est
J'hésite à annoncer des festivals maintenant, ils risquent d'être annulés. Quoi.
C'est vrai, parce qu'on
On a parlé de festival en Belgique, on peut citer aussi Trolls et Légendes, qui lui aussi normalement a lieu tous les deux ans, qui est une autre dimension hein, de festival. Et ça, pour l'instant, les dates, c'est toujours 15, 16 et 17 avril à Mons. Oui, c'est ça, à Mons, si je n'ai pas de bêtises. Donc, bon, d'ici là, on verra. C'est vraiment un festival à faire au moins une fois dans sa vie. Tout comme, bah, c'est pareil, le 26, on parlait de la Ch'tibrique de Divion qui a lieu les 26 et 27 février. Et le même week-end, c'est le Festival des Jeux de Cannes, qui pour l'instant est maintenu. Je vais aller voir en direct, mais j'ai peur maintenant d'annoncer des festivals.
Alors, est-ce que le Festival de Cannes sera sur une édition quasiment réservée aux professionnels, avec un nombre de personnes tellement réduit qu'on se retrouve que juste avec les organisateurs?
De toute façon, c'est un festival déjà, alors qui est ouvert au public, qui est même gratuit.
Qui est gratuit, mais c'est du style tu rentres et si tu ressors, tu ne rentres plus. Et après, donc faut rester toute la journée à l'intérieur.
Il y a de quoi faire.
Et après, tu as des passes VIP avec une journée, trois jours. Tu peux venir, tu peux, t'as accès à la salle une heure avant, tu as des petits goodies.
C'est un festival qui est ouvert au public. Il y a du public qui vient, mais c'est vraiment la rencontre des professionnels entre eux et des éditeurs qui viennent du monde entier. Enfin, c'est un des gros salons. Professionnels. Donc là, les professionnels vont sans doute venir, mais...
Alors, on parlait de personnes qui nous ont quittés. Juste avant ça, je vais vous parler d'un produit qui a disparu. Est-ce que, si je vous parle de YouTube Originals...
J'en ai entendu parler.
Alors, c'est...
Pareil.
Si, un petit peu, mais j'avoue que... Alors, je comprends que ça n'ait pas marché.
C'est peut-être pour ça que ça s'est terminé actuellement. C'était créé il y a quasiment 6 ans. Ça avait un peu... Comment dire ? Ça voulait faire un peu comme les Netflix et les Amazon Prime, etc., de créer du contenu original pour YouTube avec des séries ou des créations initiées par YouTube.
Ou je ne sais quoi.
C'est ça, des émissions.
Ils voulaient faire de la création originale, ouais, bon.
Oui, j'avais déjà vu passer quelques séries créées par, enfin, en tout cas, sponsorisées, voire complètement payées par l'investissement YouTube.
On aurait pu les voir qu'en payant, alors, à ce moment-là.
Et tu n'y avais accès. Et généralement, YouTube te mettait le premier épisode de la série en libre. Et après, tu disais, tu veux voir les autres, prends le YouTube Premium.
Plus gros succès était Cobra Kai.
La suite. Enfin, non, oui.
Karate Kid.
La série adaptée de Karate Kid qui racontait 40 ans plus tard les aventures de Cobra Kai. C'était l'école du méchant, entre guillemets.
Et il y a eu quand même deux créations françaises, Groom et Les Emmerdeurs, qui ont eu un succès retentissant, je vois.
Ok, je vois. Écoute, voilà.
On ne veut pas être les cibles.
Allez, on enchaîne en musique.
Ça me fait bizarre de payer YouTube, moi. Déjà, je ne vois pas les pubs. Mais. C'est en train de changer parce que, si je ne dis pas de bêtises, même Netflix en ce moment commence à avoir du mal apparemment. Et je crois aux États-Unis, ils ont augmenté l'abonnement de 1 ou 2 dollars.
Netflix arrive à un point où en abonnés sont tellement hauts qu'ils savent que la croissance, elle va pas s'accélérer ou elle va difficilement monter. Donc, à mon avis, ils vont se stabiliser là-dessus. Et pour, on parle des actionnaires, etc., pour toujours satisfaire les rentrées d'argent, on va augmenter une nouvelle fois le prix de l'abonnement légèrement. Ça a déjà eu lieu aux États-Unis, donc forcément, ça se répercute tout doucement. Ça viendra en France. Et je pense qu'ils ont réussi leur pari, à savoir que les gens sont abonnés à Netflix, et c'est devenu un abonnement qui reste. Il fut une époque où le contenu était limité.
T'achètes une nouvelle télé, sur ta télécommande, t'as les boutons Netflix, Disney, peut-être YouTube, etc. Ce qui fait que TF1 et les autres, ils commencent à râler parce que maintenant, les gens ont plus la télé s'allume plus sur leur chaîne comme avant. Quoi.
Mais il y avait cette époque où il y avait un contenu limité, donc on s'abonnait un mois, on bourrinait les séries, on se rabonnait 2-3 mois plus tard.
T'avais les 2 semaines, les 3 semaines gratuites d'abonnement. Et après, tu fais comme n'importe quelle plateforme, tu devais dire, tout compte fait, je résilie mon abonnement avant qu'il te passe un abonnement payant.
Donc maintenant, quand on sait que certaines plateformes s'initient dans le sport, on peut deviner fatalement que la télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui risque de disparaître petit à petit.
C'est pas moi qui vais pleurer.
Bon, c'est pas grave, on reconvertira bien Anouna sur Amazon Prime, je ne m'inquiète pas pour certains. Alors, Autre personne qui nous a quittés, c'est Ronnie Spector.
Oui, c'est ça.
De son vrai nom, Veronica Yvette Burnett, et qui est une chanteuse américaine qui faisait partie du groupe The Ronettes.
Alors, avec, je pense tout de suite à des titres où il y a Baby dans le nom. Est-ce qu'elles ont fait une chanson où il n'y avait pas Baby dans le nom?
Alors c'est vrai. Bah, du coup, j'en ai pris une puisque tu avais mis Be My Baby.
La classique.
Qu'on a entendu partout. Donc j'en ai choisi une autre. J'ai pris I Wish I Never Saw the Sunshine.
Ouais, il n'y a pas Baby dans le nom. T'es sûr que c'est une chanson des Ronettes?
Peut-être, on va quand même vérifier. Ouais. On sent que ça date.
Ça craque.
Il y a quand même eu un baby.
Il y a eu un baby.
Baby, do you know what you took away?
Toujours sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+. On écoutait The Ronettes avec I Wish I Never Saw the Sunshine. Dominique, je vois que tu as sorti ton magazine.
Hop, on continue la revue de presse. Bon, c'est un magazine où je ne sais pas s'il mérite de la publicité parce que c'est 01 Net qui existe, on connaît le site internet, 01net.com, un bon site de référence pour toutes les news en matière d'informatique, micro-informatique, nouvelles technologies, etc. Et là, j'ai pris le magazine en kiosque parce que, alors c'est pas pour l'interview du Eric Antoine, le présentateur de Lego Master, on va pas reparler de Lego, je sais pas ce qu'il fout dans ce magazine, mais c'est pas grave. Normalement, ce magazine, quand je le vois après, je vais tout de suite à la fin, je vais consulter parce qu'il donne des petits trucs pour des nouvelles applications, des logiciels, même moi qui pourtant suis un geek et je consulte, je passe mon temps à télécharger des nouveaux, soit des jeux ou des applications mobiles à tester ou des sites, etc. Même eux, ils arrivent à trouver des trucs intéressants dans tous les domaines. Donc ça, vous, si vous le voyez en kiosque, vous allez directement dans les dernières pages. Mais là, il y a quelques articles qui peuvent être intéressants éventuellement. Il y a toute une partie sur l'illusion, vivez l'illusion de la réalité virtuelle. On en parle de temps en temps. Ça va bientôt arriver, même avec le méta, le métaverse, etc. Les Google, les lunettes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, etc.
Alors je pense justement qu'on lâche un peu la réalité virtuelle pour se baser sur la réalité augmentée.
Un truc à la fois.
Et c'est, à mon avis, c'est ça un peu le
but. Plus commercial.
Il y a des sociétés qui vont ressortir des lunettes style Google Glass ou même Apple qui vont s'y mettre aussi.
Plus facile à mettre en place et plus commercial et profit rapide.
Il faut savoir que pour le Neuralink, ça y est, on cherche enfin à les tester.
Des cobayes.
Voilà. Donc ça va venir.
Également des articles sur des conseils de chaîne Twitch pour s'informer, etc. Le Wi-Fi 6 qui arrive en France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, puis un article intéressant sur l'intelligence artificielle, des médailles d'or pour la France, puisqu'il y a eu un concours, la 24e édition des Computer Olympiades, où on fait s'affronter des intelligences artificielles entre elles, peut-être même il y a quelques humains qui passent par là, sur des jeux de société, le Go, les dames, etc., les échecs classiques. Et les Français sont vachement bien placés. C'était à l'université, alors il y a des chercheurs de l'université Paris-Dauphine qui ont remporté 11 médailles d'or, qui ont donc fait le record, ils ont battu le record précédent. Et une intelligence artificielle donc, qui s'appelle Athénan, une IA qui est apparemment championne et dans pas mal de jeux. Quoi.
Ouais, surtout que généralement dans ces épreuves qui se passent je pense tous les ans, les très bonnes écuries, comme on peut appeler ça comme une équipe sportive, remportent que 2 à 3 médailles par année. Donc ça veut dire qu'elles ont gagné, par exemple, elles s'affrontent sur 23 ou 24 jeux et à chaque fois qu'une IA remporte un jeu, gagne la médaille en conséquence. Et donc là, l'IA a gagné 11 médailles d'un coup.
Donc même Google, c'est écrasé. Parce qu'on connaît AlphaZero, c'est l'intelligence artificielle de Google qui apprend, on lui montre un jeu, elle apprend très très vite, elle est capable. Elle va encore plus loin parce qu'elle est capable d'exploiter les coups qu'ils ont joués pour affiner son analyse, je lis, typiquement, et pas seulement les stratégies gagnantes. Et elle fonctionne, elle est capable de fonctionner sur un simple PC. C'est-à-dire que bientôt, même sur un simple téléphone. Donc si vous allez une soirée jeu et que vous avez un pote qui dit « Je peux amener ma copine à Athénan ?» Non, tu dégages. c'est pas bon.
Ouais, surtout que généralement, les IA, quand tu les... Enfin, celles qu'on connaît de maintenant, faisaient un schéma directeur de décision. Et si la finalité était que ça ratait, ça remettait en cause tous les choix de décision et ça les reprenait à zéro et ça redémarrait. Et bon, ça a des vitesses grand V. Alors que celle qui a remporté toutes ces médailles se dit, non, c'est pas forcément toutes mes prises de décision, mais peut-être que certaines, à quel moment ma prise de décision a déconné et que ça a raté. Et elle va retravailler là-dessus et ce qui fait qu'elle calcule beaucoup plus vite parce qu'elle ne reprend pas à zéro à chaque fois. Et toutes ces décisions sont faites sur des milliers et des milliards de parties en même temps. Donc elle apprend beaucoup, beaucoup plus vite.
Donc, on l'invitera un jour à Athénan.
Peut-être qu'elle est déjà parmi nous.
Ça se trouve, ouais. Et sinon, dans 01.net, pour terminer, une double page sur une rétrospective depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 2022, voire plus loin, quand la guerre fait avancer la science. On en parle de temps en temps avec les drones, etc. L'intelligence artificielle, on en reparle encore. Et c'est peut-être Athénan qu'on devrait mettre au ministère des armées. Donc voilà, 01.net en kiosque, c'est le numéro 966 du mois de janvier, 4,30€.
Je vous propose d'ouvrir un dossier jeux vidéo avec un rachat. Tout le monde en parle, alors on va y toucher quelques mots également. Et juste avant ça, vu qu'on parle de jeux vidéo, on note aussi une autre personne qui nous a quittés, c'est Paul McLaughlin, qui est l'ancien directeur artistique de Bullfrog. Avec des jeux comme Dungeon Keeper, Syndicate ou Populous 2 qui avaient marqué. Voilà, c'est cette bonne époque. de jeux et Theme Park également. Et au niveau de la direction artistique, pour le coup, qui avait vraiment marqué le jeu vidéo. Donc voilà, c'est à noter. Alors, on pensait qu'avec le rachat de Bethesda par Microsoft, qu'ils allaient peut-être s'arrêter là sur le rachat des grosses boîtes, puisque...
On s'attendait à ce que les jeux Bethesda ne soient plus buggés. Eh ben non. Je croyais que t'allais dire ça. Ouais.
Non. Et du coup, un coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo, Microsoft propose le rachat d'Activision Blizzard. Alors, quand on dit Activision Blizzard, déjà, on parle ici d'un rachat qui a déjà eu lieu entre deux boîtes. Oui. Parce qu'à la base, c'était Activision et Vivendi Games qui se rassemblent. Et quand on parle de Vivendi Games, on parle aussi de rachat d'autres. Enfin bref, ouais. On n'en termine pas sur le nombre de studios qui travaillent pour ces grandes sociétés.
Oui, parce que chacun de ces noms, tu as des sous-studios. Quoi. C'est très impressionnant.
Donc voilà, Microsoft prend cette grosse part du gâteau.
Tu as oublié de citer un nom. Activision, Blizzard, King.
C'est ça, King.
King, au hasard, Candy Crush, c'est ça?
Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on va le faire par étapes, parce qu'on risque de s'éparpiller assez rapidement. Mais effectivement, Dominique, tu le cites, Microsoft va mettre un grand pied dans le marché du jeu mobile.
Et... C'est vrai qu'ils n'étaient pas... Oui, on ne les connaissait pas pour ça, oui.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière
Un retour de Windows Phone? Non, il ne faut pas déconner non plus. Je ne crois pas. Je crois qu'ils ont laissé tomber de ce côté-là.
C'est dommage.
Le prochain Skyrim sur mobile? Non. Non, non.
Ouais, ils ont déjà tenté, mais ce n'était pas Microsoft qui l'avait fait.
C'était Blade.
Voilà.
On s'en souvient, mais pas
pour les bonnes choses. Voilà. On ne le déterre pas, celui-là. On le laisse bien... Ouais.
Donc, beaucoup de questionnements. Alors, comme je l'ai dit, c'est une proposition de rachat, sachant que ça doit être derrière validé. Donc, là, les montants ont été décidés, l'offre a été faite.
Vérifier qu'il n'y a pas de monopole Microsoft sur certaines choses et autres.
Voilà. On imagine que Microsoft a les fonds en banque, c'est pas ça le problème. C'est qu'effectivement, est-ce que ça risque pas de déséquilibrer le marché? Faut dire que même avec ce rachat, si je dis pas de bêtises, Microsoft, Blizzard, Activision, King ne serait que la troisième entreprise de jeux vidéo au monde. Je crois qu'il y a Tencent, le géant chinois, et peut-être Sony, ou quelque chose comme ça. Quoi.
D'ailleurs, les parts de Sony ont baissé d'un coup lors de l'achat, enfin, l'annonce du rachat. Alors, pourquoi? Parce que, pour l'instant, Blizzard produit des jeux multiplateforme et Activision également. Et la grande peur ici du marché du jeu vidéo, c'est que est-ce que Microsoft va pas tout simplement développer pour ses propres machines?
Ouais, ou se les mettre disant je sors un titre, il restera déjà 6 mois sur notre plateforme, que ce soit PC, Xbox.
Je pense pas qu'il y ait intérêt, mais effectivement, des principes d'exclusivité, pourquoi pas.
Mais non, ça le fait. PlayStation le fait, Sony le fait, même Nintendo le fait. C'est normal que Microsoft le fasse.
Je pense que Microsoft a plutôt, au contraire, envie de s'étendre sur toutes les plateformes où sont déjà Blizzard et compagnie.
En même temps, dis-toi que si Sony le fait, c'est que pour la PlayStation. Nintendo le fait, c'est que pour sa console, voire sa console portable. Là, si Microsoft le fait, c'est pour plusieurs plateformes, mais qui restreignent les autres. Donc eux, ils ont encore plus tendance à le faire. Parce que que tu es sur PC, tu t'achètes le jeu par exemple sur Steam, tu es sur Xbox, tu as le Game Pass, rien ne t'empêche de jouer à Oud. Les deux jouent ensemble.
Tu as cité le nom Game Pass, parce qu'effectivement, Xbox, pour jouer, donc Microsoft a mis en place le Xbox Pass, je crois que c'est ça
le
s'appelle.
Game Pass,
Donc qu'on soit sur PC, console, etc., tu payes ton abonnement et tu as accès à toute la galaxie des jeux, donc Bethesda, Squaresoft, etc., qui appartiennent à Microsoft en sous-main. Ce qui est intéressant comme offre, effectivement. Et est-ce que dans ce lot, on ne va pas rajouter en plus tous les jeux de Blizzard, etc.? Maintenant, tu veux jouer à World of Warcraft, Hearthstone ou ce genre de jeu-là, tu lances le launcher Blizzard qui s'appelle le Blizzard Launcher, j'imagine, et peut-être que bientôt, tu l'auras directement dans l'espace, dans une Xbox Pass, dans une sous-catégorie. Pourquoi pas? Alors, remarque, s'il n'y avait qu'une seule plateforme pour jouer à tout, ça m'arrangerait aussi d'un côté.
Pareil, parce que je suis d'accord.
J'ai pas besoin de mettre à jour 4 programmes différents.
Alors pourquoi est-ce qu'on a cette peur? Tout simplement parce que si vous regardez Starfield, qui est le prochain jeu de Bethesda qui est attendu notamment par les fans d'Elder Scrolls comme un RPG qui va se dérouler dans l'espace, attention, ici va être uniquement basé sur les consoles Microsoft. Donc la Xbox en l'occurrence. Donc on voit déjà que cette ce cross-platform risque de ne pas apparaître. C'est mauvais signe pour les jeux de Blizzard, en l'occurrence. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait être une bonne nouvelle ? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Or, premièrement, c'est sur la réputation qu'a Blizzard Activision en ce moment, via ses PDG et autres qui sont dans, comme diraient les grands journaux de télévision, dans la tourmente, Dominique. Avec, on le sait, hein, pas besoin de les dénoter, les accusations
de harcèlement ou de pousser ses employés à travailler plus que nécessaire.
Voilà, même d'agression, etc. Donc, peut-être que ça va déjà effacer cette partie. Si, en l'occurrence, il se dégage un peu de ses PDG et autres. Est-ce que les employés, eux, auront droit à un traitement de faveur, puisqu'on sait toujours que dans les rachats, surtout lorsqu'il y a énormément de studios comme ça derrière, comment vont être traités les employés un peu qui sont trimballés comme ça d'un jeu à l'autre ?
Et t'as surtout aussi le fait que maintenant que t'as eu l'annonce de rachat, tu as les talentueux employés de certaines boîtes qui ont mis en place les jeux cultes, donc qui a fait la richesse de Blizzard et d'Activision, qui sont partis pour les différentes raisons qu'on en a citées il y a quelques secondes, qui seraient peut-être susceptibles de revenir dans leurs anciennes équipes et de remettre les jeux. Je rigole parce que Dom, ça amuse
avec son hélicoptère.
Il
reste pas assez de temps, j'ai pas le temps de le démonter pour faire un deuxième modèle avec.
Et qui vont pouvoir revenir dans leurs anciennes équipes et pouvoir se remettre à travailler sur leurs jeux fétiches. Et enfin, du bon gameplay pour Diablo, par exemple.
Ouh là là.
Alors, est-ce que pour l'instant, où en est la cote ? Est-ce que ça va se faire ou pas ? On n'est pas sorti.
Bah, comme tu le dis, s'il reste des parts de marché qui peuvent sur d'autres sociétés et qui n'ont pas de monopole, dans ce cas-là, ça sera validé. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de rachats comme ça qui ont été refusés, sachant que lorsque tu entames des procédures comme ça, lorsque tu as fait l'annonce, c'est que généralement, légalement derrière, tu t'es renseigné à savoir est-ce que c'était possible ou non.
Et puis maintenant, tu n'as plus que les vérifications.
Et est-ce que c'est possible, c'est ça.
Voilà. Maintenant, tu n'as plus que les vérifications officielles à laisser faire par les autorités compétentes. Et généralement, ça te prend un an et demi, 2 ans. Donc, on aura le temps d'en rediscuter.
De toute façon, on sait bien qu'à la fin, c'est Disney qui va racheter tout le monde. Même Radio Campus. Non, pas Radio Campus. Jamais.
Alors, c'est ça, mais est-ce qu'un jour, est-ce que là, on n'est pas arrivé à la fin ? Parce qu'on se disait, Activision Blizzard, ça y est, on n'ira pas plus loin. Là, Microsoft rachète. C'est quoi le prochain step ? C'est Google qui rachète Microsoft ?
Puis Facebook. Il n'y aura plus qu'un seul nom. Il n'y aura plus de GAFAM, il y aura une seule lettre à la fin.
C'est peut-être ça qu'on nous prépare avec le métaverse.
Je me posais déjà la question hier en visitant le salon, le Ch'ti Brick, parce qu'il y avait effectivement plein de licences, Batman, Marvel, Tintin, etc., Star Wars. Et je me dis, oh, il y a des trucs qui appartiennent à Disney là-dedans, et des trucs pas encore. Je me dis, le pire qui pourrait arriver, c'est que Disney rachète Lego. Là, je suis mal, là, c'est fini, tu me vois plus dans les... C'est fini, je jette tous mes Lego à la poubelle. Enfin, j'y mets pas le feu parce que ça pollue, mais c'est du plastique, mais bon.
En tout cas, dans ces autres potentielles bonnes nouvelles, ça serait peut-être certaines licences qui avaient complètement disparu, telles que Guitar Hero, qui pourraient revenir sur les devants de la scène. En tout cas, c'est ce que laisse sous-entendre Microsoft. Voilà. Un grand dossier qu'on va suivre, je pense, dans les mois à venir.
En fonction des annonces, quoi.
Exactement.
Voilà. Mais moi, je me suis posé la question, mais pourquoi à la base ? Mais lorsqu'on détaille et qu'on voit qu'en fait Activision, c'est Call of Duty. Alors Call of Duty, est-ce qu'on va voir cette formule d'un nouveau jeu par an ? Apparemment, ça risque...
Nouveau. Un jeu par an ?
Là, je suis d'accord avec Dom.
C'est toujours le même jeu qui sort chaque
année.
Un
jeu par an.
C'est toujours le même jeu qui sort. Hein. C'est tout. Hein.
Allez, non, mais peut-être qu'ils pourront en même temps réinjecter un peu d'investissement sur les serveurs, tu vois.
Alors Dominique, tu nous as proposé pour cette nouvelle année, on fait souvent les artistes qui nous ont quittés, mais...
Pour changer un peu.
Voilà, c'est les artistes qui sont nés en cette belle journée du 23 janvier.
C'est à l'augure d'un article lu dans notre quotidien régional bien connu, un article sur l'étoile filante du violon swing, Michel Warlop, qui est né à Douai, le 23 janvier 1911, qui est mort à 37 ans, donc rapidement. Et je me suis dit, ah, ça, François, il va obligatoirement passer, parce que c'était donc un violoniste très très doué, malheureusement mort trop tôt, qui a notamment collaboré, qui a croisé la route de Django Reinhardt et collaboré un peu avec lui. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir un artiste de la région.
Donc ici, c'est un live qui est enregistré à Paris en 1937 pour la chanson Taj Mahal. Django Reinhardt et Michel Warlop pour ce live de 1937.
Bon. Donc Michel Warlop qui est né à Douai le 23 janvier 1911. Ses parents étaient pâtissiers, on peut toujours trouver la pâtisserie à Douai, la pâtisserie Cucci maintenant. Il y a même le portrait du violoniste en son honneur. Ils ont même sorti des violons au chocolat apparemment. Bon, voilà. Comme ça vous savez tout.
Alors, je vous laisse une dernière petite news informatique avant de se quitter, Dominique.
Oui, qui va peut-être intéresser les gnous qui sont en train d'attendre pour nous succéder, puisque dans le commerce, actuellement, vous pouvez acheter des PC. Quand vous allez acheter un PC, en général, la majorité, on vous trouve du Windows dessus. Si vous allez acheter un Mac, il y aura le macOS dessus. Dans certaines boutiques obscures, on peut vous proposer un Linux dessus, mais vous pouvez très bien acheter un ordinateur en disant non, je ne veux pas de système d'exploitation dessus, je vais l'installer moi-même, il n'y a pas de problème, je me débrouille.
Alors moi, je pensais bêtement que pour les entreprises, c'était obligatoire.
Ah, déjà. Pour les entreprises, sans doute. Mais si toi-même, en tant que particulier ou même en tant que professionnel, tu vas dans une boutique, tu peux très bien. Il y a certaines boutiques où tu peux avoir juste l'ordinateur tout nu, quoi. Tu as soit toi-même ta licence que tu vas installer toi-même, mais ils vont pas. Ils vont pas te, ils vont pas te, sinon l'entreprise va te proposer soit d'inclure le système d'exploitation comme Windows, donc dans ce cas-là tu vas payer la licence, soit de t'installer un Linux et ils vont te faire payer pour ça.
Donc non. La proposition de loi, notamment d'installer un contrôle parental sur tous les appareils connectés.
Effectivement, pour protéger les mineurs, donc la pédocrine médicale, etc., on va exiger aux constructeurs de machines connectées, pour l'instant c'est les ordinateurs, mais peut-être bientôt tous les machines, d'installer un contrôle parental. À l'achat, tu ne pourras pas sortir d'un magasin sans un appareil connecté où il n'y a pas un contrôle parental installé.
Et qui se met en route dès la première activation.
Voilà, bon, après la configuration, on verra comment ça marche.
En fait, c'est la loi qui le dit, c'est que tu dois l'avoir.
Il faut que ça marche.
Tu dois l'avoir acheté, et quand tu lances l'appareil, il doit se mettre en activité.
Voilà. Si c'est un enfant, par exemple, qui est le premier à allumer le PC, il faut qu'il soit à l'abri, et voilà, qu'il faut qu'il y ait un mot de passe éventuellement, je ne sais pas. Enfin, on verra. Mais si tu achètes un ordinateur où il n'y a pas d'OS, pas de système d'exploitation, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de logiciel de protection. Ce qui fait qu'à rebours, une des conséquences indirectes de la loi, c'est que maintenant, tu ne pourras pas acheter un PC sans OS.
Voilà. Alors attention, ça n'a pas été validé.
Oui.
C'est une proposition. Mais... je pense que vous en saurez plus en écoutant, en restant sur les ondes de Radio Campus pour parler, bien sûr, de logiciels libres avec l'émission L'écho des Gnous. Merci Dominique de continuer à faire aller tes Lego partout. On a bien compris.
Il rentre pas dans la boîte.
Allez, on se quitte avec un autre artiste qui nous a quitté. Le 23 janvier, excusez-moi, c'est Robin Zander, le chanteur-guitariste du groupe Cheap Trick. Et du coup, on va se passer cette chanson qui s'appelle « I want you to want me ». On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Heureusement en France. Il est 19h.